RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, il y a 50 ans, la France engageait un combat de l'ombre contre le principal mouvement d'opposition nigérien, le Sawaba. Son objectif, sécuriser le président nigérien de l'époque, Amani Diori. Cette lutte sera dirigée depuis Paris par Jacques Focard, le conseiller du général de Gaulle sur les affaires africaines, un homme puissant dont de nouvelles archives sont accessibles au public depuis le 1er janvier dernier. Laurent Corot a pu consulter ces documents aux archives nationales, certains sont inédits. Voici son reportage.
Dibo Bakary, Amani Diori. L'histoire du Niger au lendemain de l'indépendance est rythmée par ces deux noms. Tous les deux auraient pu être les pères de la nation, mais c'est sur Diori que la France a finalement jeté son dévolu. Dibo Bakary inquiète, il est trop difficilement contrôlable, comme l'a montré son appel à voter non lors du référendum de 1958. Ce vote négatif, dans l'esprit de Dibo Bakary lui-même, n'était cependant pas un vote de rejet de la France.
Nous a calomnié en nous présentant comme des anti-français parce que nous avons voté contre le référendum alors que toute notre attitude, toute notre activité gouvernementale, tout notre comportement en tant qu'homme politique prouve abondamment que si nous aimons suffisamment notre mère l'Afrique pour tout lui sacrifier, nous ne sommes pas pour autant contre la France à laquelle nous devons beaucoup et à laquelle nous avons tenu à exprimer notre attachement. Avant le référendum, en prenant l'engagement préalable de demeurer dans son orbite, quel que soit le résultat du référendum. Pour nous, ni l'indépendance, ni a fortiori l'autonomie interne n'exclut l'amitié inaltérable entre le peuple de France et les populations d'Afrique noire.
Dibo Bakary et son mouvement, le Sawaba, deviennent pourtant progressivement des ennemis de la France. À Paris, Jacques Focard, conseiller Afrique de Charles de Gaulle, suit la situation de près. Ces archives conservées dans le fonds Focard en garde la trace. Jean-Pierre Batte, conservateur du fonds.
Nous sommes ici devant un dossier vert qui porte le nom de Dibo Bakary et le parti Sawaba. Sans être très épais, il est très dense puisque Dibo Bakary est l'objet d'une surveillance et de renseignements pour Jacques Focard de manière continue du référendum de 1958 jusqu'au début des années 60. Tous les documents, télégrammes, notes de renseignement, notes blanches, permettent de tracer entre 1959 et 1962 tous les déplacements de Dibo Bakary en Afrique de l'Ouest.
La dissolution du Sawaba est prononcée le 12 octobre 59 par décret. Dibo Bakary passe à la clandestinité, il vit à Dakar, Bamako, puis Accra, d'où il prépare une action armée contre le pouvoir d'Amani Diori. En octobre 1964, le Sawaba lance une série d'attaques dans différentes localités destinées à provoquer une insurrection populaire. Mais les populations ne suivent pas, elles font même échec à la progression des sawabistes. À l'heure des bilans, le président Diori dénonce le rôle du Ghana et la complicité du Dahomey dans ce qui s'est passé.
Les interrogatoires des intéressés disent qu'ils sont tous partis du Ghana et qu'ils ont transité par le Dahomey. Ceux qui ont passé par la Haute-Volta, nous avons pu, grâce au concours de nos camarades de Haute-Volta, nous avons pu les intercepter. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, au nom du peuple du Niger et de son gouvernement, les camarades de Haute-Volta, le peuple de Haute-Volta, ses dirigeants, qui ont, par cette démonstration éclatante, montré la solidarité agissante du Conseil de l'Entente.
Les alliés du Niger trouvent immédiatement trace dans ces attaques de l'implication d'une puissance étrangère, la Chine. L'ambassadeur de France au Niger, Albert Tréca, établit le 20 novembre 64 une note qui arrive entre les mains de Charles de Gaulle. Il y mentionne cette connexion chinoise et évoque les réponses régionales à apporter.
On apprend dans cette note, sur la foi des interrogatoires que l'on peut deviner entre les lignes des quelques dizaines de sawabistes arrêtés, que quelques-uns d'entre eux, une vingtaine estime-t-on, ont été entraînés à Nankin, c'est-à-dire par la Chine populaire. Et cette connexion avec la subversion chinoise est une peur fondamentale pour la République française. Face à cette peur, c'est une réponse régionale qui est organisée. On voit qu'elle est prise en main par Amani Diori, président nigérien, en liaison avec Oufouette Boigny, président ivoirien, et Maurice Yaméogo, président voltaïque, Tous trois sont les piliers du RDA en Afrique de l'Ouest. La note que nous voyons là nous dit que d'ores et déjà, des négociations sont entreprises avec le Mali et l'Algérie et qu'une action diplomatique va être menée contre le Ghana. Sur quoi porte l'objet de ces négociations ? Interdire que le Sawaba puisse être accueilli dans les pays limitrophes du Niger pour empêcher, en réalité, de créer des bases de subversion locales.
Après l'échec des attaques d'octobre, les dirigeants du Sawaba se retrouvent, eux, à Accra, au Ghana, pour tirer les leçons de leur échec. Djibo Bakary est violemment critiqué pour sa gestion financière du mouvement. Le contrôle des fonds est confié à l'ancien ministre de l'Agriculture, Issaka Koké. Le Sawaba ne tarde d'ailleurs pas à refaire parler de lui. Le 13 avril 65, 6 mois après les attaques aux frontières, un homme vise le président Diori lors d'un attentat à la grenade à Niamey pendant la grande prière de la Tabaski. L'ambassadeur Albert Tréka envoie coup sur coup 2 télégrammes diplomatiques à Paris. Le lien est immédiatement effectué avec le mouvement de Djibo Bakary.
Le premier document décrit l'événement. Il s'agit d'un attentat manqué contre le président Diori à la sortie de la mosquée, le jour de la Tabaski. L'attentat a été perpétré à la grenade et a manqué sa cible. L'ambassadeur Tréka l'envoie quelques instants après les événements à 10h55. Environ une heure plus tard, à midi, l'ambassadeur envoie un deuxième télégramme dans lequel il peut décrire un petit peu mieux la personnalité du terroriste qui a effectué l'attentat. On sait premièrement qu'il avait une seconde grenade qu'il n'a pas pu actionner. On sait deuxièmement que c'est un prisonnier évadé et qu'il avait des complices. 2 d'entre eux sont arrêtés. On sait troisièmement surtout qu'il appartient, et je cite le texte, à une cellule terroriste de 40 personnes qui serait venue d'Accra par le Mali et dont on ignore où elle se trouve actuellement. En d'autres termes, les pouvoirs publics nigériens comme l'ambassade de France considèrent que cet attentat est signé par le Sawaba et qu'il s'inscrit directement à la suite directe des événements d'octobre 64.
Le pouvoir nigérien communique très vite sur cette implication du Sawaba et sur les nouvelles complicités ghanéennes dans cet attentat. Le ministre de la Justice, Issoufou Saïdou Djermakoy, s'adresse par exemple à la presse.
Le terroriste s'appelle Amadou Diop. Il faisait partie des différents commandos envoyés par Djibo Bakary pour agresser notre pays. Il faisait partie de l'équipe de Danduna qui a attaqué la région de Bénin-Conakry et qui a été lynché par la population après qu'il ait tué un instituteur qui était venu pour pouvoir l'identifier. Amadou Diop, avec quelques-uns de ses camarades, ont pu rejoindre la Nigeria, traverser la frontière et rejoindre la Nigeria. Et depuis, on les cherchait. C'est au cours de la Tabaski, justement, que Amadou Diop, profitant justement de cette journée religieuse, a pu pénétrer au Niger en passant par la Nigeria, à Kano. De Kano, il a pu rejoindre Maradi, de Maradi Niamey. Et au cours de ces événements, de cette grande prière, il a pu agresser. Donc c'est la suite logique, n'est-ce pas, des attentats perpétrés par Djibo Bakary contre le Niger.
Est-ce qu'il a mis les autorités ghanéennes en cause, monsieur le ministre ?
En tous les cas, il dit qu'il a transité par le Ghana, qu'il a été hébergé, comme d'habitude, par le Ghana, en revenant de Pékin. Il a transité, il est resté longtemps au Ghana, et c'est de là qu'il a été acheminé sur le Niger par le Nigeria.
Un attentat terroriste a failli mettre à terre l'exécutif nigérien. L'alerte a été violente. La France s'interroge sur les moyens de sécuriser son allié de Niamey. Le commissaire Colombani, un conseiller technique envoyé par la France, propose à Jacques Focard la mise en place d'un réseau ST, surveillance du territoire. Un exemplaire de son projet existe toujours. Jean-Pierre Batte, conservateur du fonds Focard.
Le document est adressé directement à Jacques Focard sous son titre de secrétaire général pour la communauté et les affaires africaines et malgaches. Il n'est pas adressé au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Coopération ou au ministère de l'Intérieur, mais directement au monsieur Afrique de l'Élysée, parce que celui-ci a comme principal souci de garantir la sécurité politique mais aussi physique du président Amani Diori, comme la France l'a fait 1 an plus tôt pour le président Léon Ba au Gabon. C'est un document de 9 pages. Colombani, après avoir récapitulé les événements d'octobre et l'attentat du 13 avril, précise que la menace va aller croissant. des Chinois installés au Mali, dans les régions notamment de Ségou, Sikasso et Niomo, se prépareraient à augmenter leur aide technique aux cellules sawabistes hébergées par le Mali. Dans ces conditions, il convient pour lui de créer une structure capable de mettre un coup d'arrêt aux menées du Sawaba. Le reste des documents se compose de l'organigramme et de schémas qui expliquent comment s'articulent le bureau central de Niamey, dirigé par Colombani, et les 6 antennes qui vont quadriller le territoire. Officiellement, il s'agit d'un service de sûreté nigérien. Mais en regardant la composition des effectifs, on voit que chaque niveau hiérarchique, le bureau central comme au niveau de la direction des antennes régionales, est dirigé ou conseillé par un officier de police français, personnellement recruté par Colombani, qui fait appel à ses hommes de confiance. D'ailleurs, par la suite, dans les années 60, il veillera en personne à la nomination des officiers qui auront en charge de surveiller la zone d'Arlit, la zone donc d'uranium, particulièrement stratégique à l'heure où la France mute vers l'économie nucléaire.
Cette structure chargée de la surveillance du territoire nigérien, née en lien étroit avec la présidence française, maintient dans les années qui suivent sa relation anachronique avec l'ancien colonisateur. Jean-Pierre Batt.
Focard ne s'intéresse pas seulement à cette police au moment de sa création. Au contraire, il en suit le fonctionnement et, au hasard des dossiers d'affaires politiques que l'on trouve dans le fond, on découvre des fiches individuelles directement rédigées par la surveillance du territoire nigérien, c'est-à-dire par les services de Colombani, dont les originaux parviennent entre les mains mêmes de Jacques Focard et sont aujourd'hui conservés dans ses archives dans les dossiers Niger.
Pour faire face à la subversion sawabiste, Amani Diori lui-même demande la nomination à ses côtés d'un conseiller qu'il a choisi, Jacques Mention. Les explications de Jean-Pierre Batt.
Jacques Mention est célèbre dans l'histoire de France pour avoir été le premier agent secret de la France libre envoyé en juillet 1940 en France occupée. C'est une sorte de légende des services secrets français qui, après la Seconde Guerre mondiale et après quelques temps encore passés dans les services, se recycle en Afrique, essentiellement dans le secteur privé, sans ignorer toutefois les évolutions politiques, notamment du Congo-Brazzaville. En 1965, il réapparaît, mais cette fois en Afrique de l'Ouest. Le président Amani Diori adresse au ministre de la Coopération, le 21 juillet 1965, un courrier personnel par lequel il demande que lui soit affecté à son cabinet au titre de la coopération technique Jacques Mention. Ce courrier est devant nous et Amani Diori précise les missions qu'il attend de lui. Monsieur Mention exercerait auprès de moi les fonctions de conseiller technique pour les affaires particulières que je lui attribuerai. En réalité, c'est un conseiller politique spécial qui n'est pas tout à fait neutre puisque Jacques Mention est notoirement un ami de Jacques Focard et qu'il va assurer les missions de liaison sensibles et confidentielles entre Jacques Focard d'une part, Amani Diori d'autre part.
Ce conseiller particulier sera notamment envoyé en Algérie après le coup d'état de Boumediene, comme en témoigne une lettre de sa main.
Au lendemain du renversement de Ben Bella, au profit du régime militaire de Boumediene, le Niger espère obtenir ce qu'il n'avait jamais obtenu avant, l'interdiction du Sawaba en Algérie. C'est ce que Jacques mentionne dans la plus grande confidentialité, par négocié à Alger, avec les affaires étrangères algériennes. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas un diplomate nigérien qu'on envoie, mais un homme du président, qui plus est un homme de Focard, qui doit aller négocier, ce qui relève beaucoup plus de la sécurité politique que de la diplomatie. Le rapport daté du 1er octobre 1965 se termine sur une touche optimiste, puisque le président Boumediene accepte la rencontre que lui propose le président Amani Diori pour discuter de cette interdiction du Sawaba.
Boumediene demandera plus tard aux membres du Sawaba présents en Algérie de cesser leurs activités. Un dernier document du fonds Focard mérite d'être cité. Il s'agit d'une note sur l'affaire Ali Côté, un partisan du Sawaba arrêté en France, dont le régime d'Amani Diori souhaite l'extradition, alors que Côté est déjà réclamé par le Nigeria. La note qui vient du secrétariat général pour la communauté et les affaires africaines et malgaches, les services de Focar, est datée du 31 juillet 65. Elle évoque toutes les hypothèses envisageables pour envoyer Ali Côté au Niger, en dépit de l'avis du Quai d'Orsay et en allant jusqu'aux limites de la légalité. Jean-Pierre Batte.
La première option consiste à envoyer Jacques Mention à Paris pour recomposer le dossier de demande d'extradition au Niger d'Ali Côté sur la base de trafic de fausse monnaie. Si cette opération rate, il est prévu de constituer une deuxième plainte par un intermédiaire, ici une entreprise privée, pour demander l'extradition d'Ali Côté en direction d'un pays ami, c'est-à-dire en réalité de la Côte d'Ivoire, d'où, c'est bien précisé, Diori pourrait le retrouver. En d'autres termes, on l'amène à Abidjan pour qu'ensuite Oufouet Boigny le livre à Amani Diori. Ce qui est également intéressant dans cette note, c'est que toute cette stratégie est fondée sur le contournement de la diplomatie officielle qui ne cache pas son hostilité à ces pratiques et notamment à cette utilisation de l'extradition judiciaire en faveur d'une opération politique. La note conclut en déplorant que le Quai d'Orsay risque de s'opposer à cette opération d'extradition en faveur d'Amani Diori.
Au cours de cette période de lutte contre le Sawaba, la France renforce aussi le contrôle des allées et venues sawabistes sur son territoire. Fin 64, le secrétariat général de Jacques Focar adresse au ministère de l'Intérieur un dossier nominatif sur Djibo Bakary. Le document sera transmis aux renseignements généraux, accompagné de 3 photos qui doivent aider à le reconnaître, afin que le leader politique soit appréhendé s'il venait à entrer en France. Niger 1965, la méthode Focar en action, un reportage de Laurent Corot réalisé par Souel Kedir avec la complicité d'Oumarou Gado à Niamey.
Laurent Corot, bonjour.
Bonjour.
Vous signez donc ce reportage à partir de documents du Fonds Focar aux Archives Nationales. De nouveaux documents sont disponibles depuis le 1er janvier dernier. Vous nous parlez de la mise en place d'une structure de surveillance du territoire nigérien, du pistage des militants du mouvement Sawaba par les services français, d'un influent conseiller français placé aux côtés du président Diori. Comment peut-on expliquer en cette année 1965 le degré d'implication de la France face à ce mouvement Sawaba qui a fait trembler le régime nigérien?
Il faut rappeler qu'on est dans la continuité des événements de Brazzaville et en août 63, la France en fait n'a pas secouru l'abbé Fulbert Youlou qui était l'un de ses alliés. Abbé Youlou qui a été emporté par des manifestations lors de ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses. Et donc après ce manquement, eh bien, les autorités françaises doivent faire comprendre aux pays amis sur le continent que jamais ce scénario ne se reproduira. D'où le dispositif qui va être mis en place pour remettre en selle le président Léon Mba au Gabon après le putsch de février 64, et d'où ce dispositif également autour d'Amani Diori au Niger. Dans les deux cas, Jacques Focar va jouer un rôle essentiel dans le renforcement de cette protection des amis de la France.
Il y a donc ce contexte, mais est-ce qu'on peut aussi expliquer ce rôle de la France par le positionnement politique du chef du Sawaba, Djibo Bakary?
Oui, tout à fait, puisqu'après les indépendances, Paris mise beaucoup sur un réseau politique, celui du RDA, le Rassemblement démocratique africain, pour conserver une influence sur le continent. Djibo Bakary, le chef du Sawaba, fait à un moment partie de l'antenne nigérienne du RDA, mais il finit par s'y opposer. Et non seulement il s'y oppose, mais il s'allie avec le président ghanéen, Kwame Nkrumah, qui est l'ennemi juré du patron du réseau RDA, l'ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Cet ancrage dans le camp progressiste, qui passe également, on l'a entendu dans le reportage, par le soutien chinois au Sawaba, fait donc de Djibo Bakary un homme à abattre pour la France.
D'ailleurs, sur les documents d'archives que vous évoquez dans votre reportage, ils seront à découvrir dans les tout prochains jours en exclusivité sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Et dans une semaine, Laurent Corot, on vous retrouve pour parler cette fois de la Centrafrique.
Et le Fonds Focar nous livrera quelques secrets sur la marche vers le coup d'État de Bokassa, la Saint-Sylvestre 66, ainsi que sur la façon dont s'est forgée la position française vis-à-vis de ce coup d'État.
À la semaine prochaine, donc, Laurent Corot, Niger 1965, la méthode Focar en action. Votre grand reportage est à retrouver, à réécouter sur RFI.fr. Accent d'Europe vous propose de